Approcher la poussière, une création de Guilherme Botello et des danseurs de la compagnie Alias. Nous avions laissé Guilherme Botello avec l'univers baroque et gothique de Mary Shelley et son Frankenstein. Ici, une pièce pour cinq danseurs où l'on revient à une exploration du quotidien. Quel a été un petit peu votre désir de départ en créant cette Approcher la poussière?
Au départ, c'était un cadre dramaturgique très simple. Avoir des événements prosaïques, simples, d'une journée d'une personne. D'abord, c'était une femme, et après, ça changeait, c'est devenu l'histoire d'un homme, le protagoniste, c'est un homme. Et qui est chez lui, qui parle à sa femme, qui va au médecin, qui prend un taxi, qui va dans une salle d'attente de ce dermatologue, qui va voir une exposition de photos, qui est lui-même photographe et qui va se coucher la nuit. Et cette journée, elle est reprise à plusieurs fois avec des... comme avec un changement des filtres de lentilles ou... avec tout ça qu'on aurait aimé que ça soit, tous les peurs qu'on aurait eu qui se passent pendant la journée, tous les couches, ça pourrait être parfois c'est comme une science-fiction, parfois c'est comme un film d'horreur, parfois c'est une et c'est assez impressionnant comme ça comme ça marche assez bien dramaturgiquement, comme on revient à prendre ce taxi tellement de fois, il y a toujours un monsieur qui lui aide à prendre ce taxi, et parfois elle est violente, parfois. Et ça devient presque comme un film de science-fiction, il y a quelque chose de très cinématographique. Et encore une fois, c'est un questionnement sur la réalité, évidemment.
On se souvient, Guilherme Botello, du film Un jour sans fin de Sam Raimi, où effectivement, c'était donc la fameuse journée de la marmotte dans un village américain, une petite ville américaine, et effectivement, donc la personne revivait chaque fois la même journée. Alors ici, c'est une manière de revivre la journée, mais en même temps de la lire différemment. Alors cette manière du retour du même, en fait, comment ça se passe? Est-ce que ce sont les mêmes scènes qui sont jouées, ou alors est-ce que c'est ce qu'il y a sous ces scènes qui apparaissent de manière différente? Disons concrètement, comment ça se situe par rapport à ce retour du même, notamment vis-à-vis de ce film Un jour sans fin?
Alors moi, je trouve très intéressant ce film, mais le cadre est très différent. Dans Un jour sans fin, c'est la même chose qui s'y passe, et il est face au même. Mmh. Et c'est ça que c'est intéressant dans ce film. Dans Approcher la poussière, on a une première histoire d'un peu moins, un petit quart d'heure, ça fait 13 minutes, je ne sais pas. Et à chaque fois qu'elle est revue, chaque fois qu'on passe sur cette scène, parfois elle n'est pas complète, la scène, parfois c'est un morceau, il y a des grands morceaux qui sont la même chose, mais il y a un élément qui est différent. Et la carte d'entrée de ces scènes, c'est qu'elle révèle quelque chose d'un personnage ou comment ça aurait pu être. C'est comme si, au fur et à mesure qu'on revoit les scènes, c'est comme si on s'approche comme un tel objectif plus proche de comment c'est ce personnage. Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Qu'est-ce qui s'y passe entre eux? Et ça, c'est assez intéressant parce que même si dramatiquement la même scène, elle peut être comme une scène de science-fiction, un film d'horreur, une esthétique très abstraite, dansée, et étrangement ça marche assez bien, il contribue à cette pénétration dans cette réalité plus profonde à chaque fois. Mm-hmm. Ça marche assez bien, ça.
Alors justement, une pièce que vous n'avez sans doute pas vue, que Joao Fiadero, chorégraphe d'origine lusitanienne, a présentée à Montpellier Danse notamment, qui s'appelle « D'où vient la lumière ?», qui avait un principe très intéressant, c'est-à-dire que la première partie de la pièce était jouée donc par trois danseurs. Il y avait une sorte de scénographe metteur en scène qui venait dire ses indications à l'oreille de ces personnes. Ensuite, ces trois personnes, pour la seconde partie, changeaient de costume, s'habillaient différemment, et les indications qui étaient chuchotées passaient. Donc c'était exactement les mêmes scènes, mais c'est-à-dire qu'on leur demandait de faire un certain nombre d'actions. Par exemple, Joao devient plus petit, donc il disparaît sous le canapé ou ailleurs. Il y avait des instants très burlesques, très comiques, mais effectivement c'était les mêmes scènes, mais avec les mêmes indications, mais maintenant tout le monde les entendait. Et donc il y a une manière de réagir différemment. Est-ce que vous allez jouer sur des décalages de ce type-là? C'est-à-dire qu'il y a la même scène qui se rejoue, mais elle se fait différemment parce qu'il y a des interventions différentes par rapport à ça, juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu.
Non, pas dans ce sens-là. Par exemple, il va voir son médecin, il est dans une salle d'attente, et il voit une femme orientale, et sa femme à lui, elle est orientale, puisqu'elle est avec deux Coréennes, et elle est très mystérieuse, elle est assise comme ça, droite, elle me regarde. Et donc, beaucoup qui s'y passe dans la pièce, c'est son fantasme qu'il a envers cette femme, qui, pour lui, c'est la femme parfaite, quelque part. Ou c'est, mmh. Quelque part, c'est ça que sa femme, à lui, qui est orientale, mais très occidentalisée, a perdu. Ou ça qu'il aurait voulu avoir dans sa femme, mais il n'a plus. Il va voir ses médecins, et ses médecins, parfois, c'est un fou furieux, parfois, c'est un animal qui lui bave dessus. Parfois, donc, ça peut être tout qu'il aurait aimé, qu'il aurait craigné, tout qu'il aurait... désirer ces médecins, parce que quand on va dans un médecin, surtout dans un dentiste, je pense qu'on a beaucoup d'attentes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et donc, le médecin est traité comme ça. Alors, effectivement, la scène est très différente. À chaque fois qu'il arrive, il dit bonjour de la même manière, il s'assoit de la même manière, quelque chose de très répétitif. Et en même temps, ces scènes-là ont la fonction qu'on comprend qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du protagoniste.
Effectivement, il y a beaucoup de scènes dans vos chorégraphies qui sont un petit peu des scènes de vie intérieure ou fantasmées ou des imaginaires qui se mettent comme ça en marche. On reconnaît ici dans Approcher la poussière la présence un petit peu tutélaire d'une figure qu'on retrouve dans différentes déclinaisons, qui est celui du médecin. On avait un physiothérapeute dans votre chorégraphie avec les requins, notamment ce parc I Want to Go Home. Alors parce que c'est vrai que effectivement en tant que danseur et chorégraphe, c'est peut-être la personne avec laquelle on a le plus à faire journellement ou quotidiennement. Et puis ici, il y a de nouveau, disons, il y avait le docteur Frankenstein d'une certaine manière dans Frankenstein, mais ici il y a un dentiste. Qu'est-ce qui vous attire, vous, dans ces cabinets où il y a des gens extrêmement disparates qui se rencontrent, et puis on a une relation où on s'ouvre le corps de manière effectivement extrêmement...
D'un Approcher la poussière, c'est pas n'importe quel médecin, c'est un dermatologue. Et c'est très important, parce que la pièce, elle a une dynamique de tel objectif tout le temps, d'aller voir plus près. Et c'est vrai, moi j'ai... C'est étrange que tu en parles, mais c'est vrai que cette pièce, pour moi, c'est une conjonction des dernières quatre pièces que j'ai fait à peu près. Je sens ça et je suis assez content. C'est vraiment quelque chose qui a la thématique des les poids d'éponge, qui parle de la réalité, de la difficulté de lire la réalité, qui a un côté de la dramaturgie des Scutiami Cantar, qu'il y a un aspect des compositions de Frankenstein et de I Want to Go Home. Thématiquement aussi, c'est très proche de Frankenstein, dans le sens où les protagonistes qui n'arrivent pas à parler à cet oriental, qui lui répond pas de toute façon, qui est quelque chose d'inaccessible, c'est comme un grand rêve à lui, il doit aller, il y a presque comme un Orphée, il doit aller à l'enfer, mm-hmm. Il doit vraiment, il devient complètement cassé, complètement baigné dans les seins pour pouvoir lui parler, et elle lui sourit à la fin, évidemment, il arrive à sortir cet enfer pour lui parler. Donc il y a quelque chose de faire face à ces monstres, d'espérer, et qui est lié à Frankenstein thématiquement, dans le sens où qu'est-ce que c'est la monstruosité par rapport à qu'est-ce qu'on trouve monstrueux, c'est qui est différent, c'est qu'on ne comprend pas. Les monstres, il est en nous avant tout, et qui comprendre la réalité, c'est avant tout comprendre ça qu'on ne comprend pas. Mm-hmm. Je pensais à la phrase de Neruda, la vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité. Mm-hmm. Et j'ai travaillé beaucoup avec des psychiatres et psychoneurologues par rapport à la notion des perceptions de la réalité, des vérités, mensonges. Et on a beaucoup parlé sur cette... j'ai interviewé des gens à l'hôpital cantonal, et il y a quelques interviews qui étaient assez enrichissantes par rapport à cette seule possibilité, normalement, qu'il a trouvé à de lire la vérité, de lire le monde, la réalité, d'après ça qu'il est. Et donc l'importance d'aller voir en soi ces côtés obscurs, ça qu'on ne veut pas avoir en nous, pour pouvoir lire la vérité, pour pouvoir percevoir la réalité autrement.
Alors, quand vous dites que ça reprend la dramaturgie d'Escucha mi cantar, donc on va rappeler peut-être en quelques mots, il s'agissait d'une tournette avec des vues sur des appartements où on avait des sortes, non pas de vignettes chorégraphiées, mais en tout cas de moments comme ça, dans un battement, comme dans un antique praxinoscope qu'on faisait tourner autour d'une flamme, et on voyait effectivement un développement. Ici, c'était, disons, à l'intérieur de chambres différentes dans lesquelles il y avait une circulation. Donc on avait un temps de vision et d'image rémanente qui était environ de 8 à 10 secondes, je crois. C'était court.
C'était trois chambres qui étaient pareilles. Mm-hmm. Dans une chambre, il y avait un homme, dans l'autre, une femme, et dans l'autre, un couple. Et l'approche que j'ai fait entre les deux, c'est le fait que, par exemple, on voit ces couples, on les voit parfois, on peut faire un tour complet en 3 secondes, ça veut dire, ça c'était un des plus vite, donc ça veut dire 1 seconde par chambre, environ, un peu plus parce que la chambre elle apparaît avant, et parfois ça peut être très lent, on pourrait avoir 8 secondes pour voir une chambre, mais ça veut dire qu'on avait comme des photos vivante, quelque part, des aperçus. Moi, l'important, c'est l'aperçu. On aperçoit un bout. C'est comme on passe une voiture devant une fenêtre et on peut écrire une histoire. Donc, c'était ça le but d'Escucha mi cantar. C'était marcher devant une fenêtre, la voir passer, dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils sont en train de manger un dinde de Noël en plein été, mais je hallucine ou quoi? Et c'est créer pourquoi ils font ça, que finalement, ils se congèlent les dindes, j'en sais rien, créer son propre histoire. Mais c'était ça à l'extrême. Et quelque part, le fait de montrer la même image qu'on a vue produit cela. Et produit quelque chose d'intéressant aussi, c'est que comme ils font la même chose, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et on ne sait pas sûr si c'était toujours là ou on l'a rajouté maintenant pour...
Alors sur le titre « Approcher la poussière », j'ai retrouvé une phrase de Nietzsche, je ne sais pas si c'est celle qui vous a inspiré, mais effectivement, Nietzsche parle de la contradiction présente dans la vie, de l'éternel retour qu'il y a en soi, et il dit « Cette vie, tu devras la vivre encore une fois, et d'innombrables fois. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui, au grain de poussière de la poussière. » Amen. Donc, par rapport à ça, ce côté effectivement cyclique, ce côté d'éternel retour, Nietzsche appelait à sortir de cette pesanteur de l'être, notamment par la danse, par le rire, par la joie. Mais qu'est-ce qu'il en est justement de ce titre « Approcher la poussière » ? Parce qu'en même temps, il y a un accomplissement, puis en même temps, on a l'impression qu'effectivement, plus on aligne ses journées, plus on est proche de la poussière, on est déjà poussière. Qu'est-ce que vous aviez aussi ? Est-ce qu'approcher la poussière, c'était... c'est un terme qui revenait par exemple chez... celle qui a signé les éphémères, Ariane Mouchkine, qui sont donc un spectacle de 8 heures où il y a des instantanés un petit peu à la Découflée ou à la Botello parfois, même si malheureusement il y a du texte dans ce cadre précis, donc qui sont vraiment des scènes quotidiennes. Alors il y a toute une histoire de mémoire, de transmission, des choses qui reviennent à la Seconde Guerre mondiale, mais disons, c'est des plateaux roulants comme ça, on est en bifrontal et les scènes durent de 2 à 3 minutes, c'est extrêmement rapide, c'est vraiment à voir, hein, encore. Donc chez Ariane Mouchkine, c'est-à-dire à la Cartoucherie jusqu'en décembre 2007, mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en était sur ce terme approcher la poussière d'une certaine manière? Est-ce que c'était aussi une manière d'approcher, comme vous le dites, l'entraille du corps, ce qui est à l'intérieur ou ce qui reste à la fin de...
Je crois qu'il y a deux ou trois lectures. Approcher la poussière, c'est avoir un regard qui est plus précis, déjà. Donc il y a un regard de tel objectif, il y a un regard, parce qu'on ne voit pas une poussière, on la voit quand on passe les doigts dessus, quand on s'approche. Donc il y a quelque chose de sortir de sa dimension et entrer dans une autre dimension. Les mots poussière amènent à quelque chose de très quotidien, il y a quelque chose de très chez soi, il y a quelque chose de très vivant. Il y a les temps qui passent, parce que la poussière elle arrive avec les temps. Et ça, je trouve intéressant. Approcher la poussière, c'est voir les temps qui passent d'une autre manière. On ne voit pas la poussière. C'est comme si j'ai regardé cette table et j'attendais qu'il y ait de la poussière. Ça, c'est réapprocher la poussière, quelque part. Je la regardais jusqu'à ce qu'elle ne soit pleine de poussière, rester là pendant 6 mois à la regarder. Je ne sais pas, 3 mois, je ne sais pas, 1 mois, comme je ne connais pas le bureau, mais je trouve que c'est... Il y a cet aspect-là. De changer la dimension, il y a l'aspect, quelque part c'est juste à côté de toi et tu vois pas, quelque chose comme ça, la poussière elle est partout, n'importe où elle y est, et il y a quelque chose de l'humilité aussi, de très humble, ce n'est pas aller chercher la vision de la vie d'un des textes sacrés ou d'un, de, même si je n'ai rien contre, ça m'arrivait dans ma vie de m'intéresser à des aspects ésotériques de la vie ou spirituels, ou d'un philosophe, mais tout d'abord, regardez la poussière qui est à côté, il y a quelque chose de c'est juste là.
Mais juste, vous m'avez pas répondu, elle correspond à quoi ce moment où cette jeune personne est avec ce bâton?
Alors, c'est le seul moment où cette personne qui est assise, elle danse. Mmh. C'est le seul moment qu'elle danse. Et quelque part, c'est comme s'il y a quelque chose en elle extrêmement rigide, presque comme une croix. Comme elle est orientale, c'est vrai que ça fait penser à quelque chose de cet aspect de rigidité sociale orientale où on parle, elle est comme ça, elle est tout le temps comme ça. Mm-hmm. Donc il y a quelque chose de cette tradition tellement lourde, et elle tombe tout le temps avec ses bâtons qui lui rend son tailleur rigide un peu sur cette place-là. Moi j'aime beaucoup cette scène, c'est être des choses au même temps. C'est comme si on pouvait voir la poussière et la grandeur d'un immeuble au même temps. Dans une personne, on pourrait se voir un côté, comme si on pouvait se voir son côté éducationnel, de son éducation, de ce qui s'est inscrit en elle, et au même temps son désarroi émotionnel. Je sais pas, c'est comme si on mettait deux mondes qui ne sont pas de la même nature, de la même dimension ensemble.
Mais c'est vrai que sur ces deux mondes de même nature, quand on voit ces images, on ne peut s'empêcher, même si les couleurs sont beaucoup moins criardes. Voilà, c'est pas les vraies couleurs, mais j'entends...
C'est pas un costume, c'est pas un balai, c'est un bâton. Donc, ça, c'est des répétitions. C'est
mais dans le rendu de la chose, c'est vrai que, quitte à faire un peu des mauvaises pistes, mais j'entends, on peut quand même penser aux fantastiques japonais, à des films comme The Ring ou à The Grudge... avec Ally McBeal, c'est-à-dire que c'est une sorte de succube d'apparition comme ça, cette petite fille hein, donc qui apparaît dans tous ces films, qui vient comme ça hanter. C'est aussi des personnes qui sont assises pendant assez longtemps. On ne sait pas très bien si elles sont encore du monde du vivant, si elles sont déjà des revenants ou autres. Est-ce que vous jouez dans cette dimension fantastique, pas nécessairement film d'horreur, mais...
Oui, tout à fait. Cette fille, elle est assise pendant presque tous les spectacles. C'est pas la même de la photo en plus, hein. Mm-hmm. Ça, elle était pas là, elle était quand on a fait la photo. Ouais, moi j'aime bien ces personnages dans les spectacles qui deviennent comme un décor, ils deviennent très puissants comme ça. Ils sont tous assis tout le temps et j'aime bien ces personnages qu'on croit comprendre, qu'on croit, et d'un coup quand ça devient qui sont imperméables, qui quand ça devient un peu perméable, c'est tellement vaste.
Mais on a aussi l'impression, je ne sais pas si c'est le cas ici, que par exemple dans Contre-coup, il y avait ce fameux, je crois, solo de Joseph Trefeli, mais qui partait notamment d'une nouvelle de Cortazar, où il y a un habit qui acquiert sa vie propre. J'entends Cortazar, notamment dans une nouvelle, parle d'un pull qui, pour finir, va finir par étrangler son... Ou alors je confonds certainement les références là-dessus. Non, c'est pas contre-coup.
C'est pas contre-coup, c'est les apnées. On peut pas toujours être en apnée.
On peut pas toujours être en apnée, mais c'est vrai que, y compris, je crois, dans le spectacle pour le millénaire, qui est un petit peu à part dans votre parcours, même s'il y a plein de choses qui sont de votre grammaire et de votre imaginaire chorégraphique. En même temps, le fait que, voilà, on sait pas très bien si le costume est actionné par quelque chose qui serait humain à l'intérieur, ou si c'est l'inverse qui l'actionne, vous voyez, ce rapport.
C'est ça qu'on a utilisé en Frankenstein, quand toute la scène où il y a une société, l'idée c'était de faire un costume vivant, et ça je trouve encore une fois très intéressant par rapport à la manipulation, qui est mettre à bord. C'est comme si d'un coup un costume des personnes, moi je me souviens la première fois que je travaillais sur ça, j'ai dit j'aimerais un costume vivant qui bouge tout seul. Voilà, c'était ça l'image de part. J'ai dit comment je vais faire ça, et après petit à petit, mais peut-être que si on prend un costume assez grand, on met quelqu'un dedans, et ça marchait assez bien. On pense qu'il est vide, il a des émotions, et je trouve que c'est très parlant, c'est très ludique comme ça, c'est un peu burlesque parfois, mais c'est étonnant qu'on voit pas les mains, on voit pas la tête, on voit une chaussure, on voit pas les pieds, mais on voit une chaussure. Bien sûr qu'on sait logiquement qu'il y a quelqu'un dedans, mais quand le personnage il tremble, le tissu il tremble, d'un coup il a une émotion, il a peur, il a des, on arrive, il est assez attachant. Et je trouve très intéressant que ce personnage que j'ai utilisé plusieurs fois, et peut-être que je réutiliserai, qui est l'extérieur d'un homme, et qu'en même temps, il est ça. C'est pas une critique, il est pas ça. Non, il est ça. On est aussi ça.
Voilà. On va retrouver Héraclite et le temps aussi par rapport à ça. Merci beaucoup, Guillaume Botello. Ça sera du 6 au 8 septembre au Forum Mer.